Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Je vous propose cette semaine une autre magnifique lecture par Sophie Hartung dans le cadre de sa chronique « La balade des mots ». Il faut dire que depuis un certain temps, notre serein pèlerin Michel O'Neill m'incite à lire en onde le texte de mon petit livre « L'homme qui marche partout ». Le but serait d'illustrer l'esprit et la démarche du projet « Je marche partout » dont fait partie l'émission « Marcher vers le bien-être » et ma chronique hebdomadaire du jeudi matin à Radio-VM, de même que la pensée de la semaine lancée il y a quelques mois. Par ailleurs, Sophie m'avait mentionné à quelques reprises son désir de nous offrir une lecture qui lui permettrait de partager son amour de la Provence et de ses vacances de jeunesse dans le pays de Marcel Pagnol. Je lui ai donc demandé si elle accepterait de nous offrir son interprétation de l'homme qui marche partout avec l'accent provençal si délicieux à nos oreilles. Et voilà que Sophie nous fait revivre à sa façon une fabuleuse rencontre au cours de laquelle Francesco Crosato me livre son secret du bonheur. Et pour conclure notre fugue en Provence, la musique thème du film « La gloire de mon père » d'après l'œuvre de Pagnol. Je vous souhaite donc bonne écoute, bonne réflexion et bon voyage. Alors bonjour Sophie et merci beaucoup de vous joindre à nous de nouveau cette semaine pour nous présenter votre très belle chronique « La balade des mots ».
Bonjour Denis.
Alors récemment, vous nous avez offert la merveilleuse lecture de « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. Aujourd'hui, vous nous proposez la lecture de mon petit livre « L'homme qui marche partout » et je dois vous dire que c'est très gentil de votre part.
Mais ça me touche beaucoup que vous me le proposiez et je trouve que c'est un très joli petit livre et comme je vous le disais, je suis même un peu intimidée de le lire devant l'auteur, mais cela me fait un grand plaisir de le partager avec vos auditeurs.
Pour les besoins de la cause, Sophie, vous avez quelque peu modifié le contexte car il faut le savoir, le protagoniste Francesco Crosato, il est italien et plus précisément de Gênes. Donc, nous avons transformé Francesco en personnage bien de chez vous afin de nous faire goûter la langue et la culture des gens de votre pays. Alors, on vous écoute.
Une rencontre fortuite. Je l'ai rencontré par hasard il y a de cela quelques années déjà. C'était en octobre, par un bel après-midi d'été indien. Je me promenais sur le sentier qui longe le fleuve Saint-Laurent près de chez moi, à Longueuil. Le soleil était radieux et la brise légère. Une odeur de feuilles séchées et de terre humide parfumait l'air. Une journée idéale pour un dernier plein de chaleur avant l'hiver. Je me laissais aller à rêvasser quand soudain, j'aperçus tout devant un homme grand et svelte, visiblement contemplatif, les yeux rivés sur le bord de l'eau. Plus je me rapprochais de lui, plus je distinguais son abondante chevelure blanche et son teint basané d'aventurier. Arrivé à sa hauteur, je le saluais. « Bonjour, monsieur. Il semble magnifique, n'est-ce pas ? » dit-il, en fixant du regard une famille de canards se reposant sur l'eau, pose obligatoire dans sa migration vers le sud. « Je n'avais jamais vu cet homme dans mon quartier. » « Vous habitez les environs ? » demandai-je. « Non, je suis en visite chez ma fille, » répondit-il en se tournant vers moi. « Je reprends l'avion demain pour l'Italie et je profite de ces quelques heures avant mon retour pour goûter ce tan tout à fait splendide. » Puis, il me posa une question à première vue anodine, mais qui allait changer le cours de ma vie. « Vous marchez beaucoup ? » ?»« Oui, pas mal, pourquoi ?» Moi, monsieur, je suis un passionné de la marche. La marche au quotidien est une source intarissable de santé et de bien-être. Elle peut transformer profondément un individu et contribuer à changer notre monde, enchaîna-t-il d'un trait. Puis, alors qu'il balayait du regard le paysage, il emplit ses poumons de cet air automnal si pur et si frais qu'il vous donne le vertige. Voyez-vous, reprit-il. À 82 ans, je suis en pleine forme et j'attribue cela en très grande partie à la marche. J'y crois tellement que je passe le plus clair de mon temps à promouvoir les bienfaits de la marche à qui veut bien m'écouter. Tenez, voici ma carte de visite. Je la pris et lus Francesco Crosato, l'homme qui marche partout, et son adresse en Italie. Ça vous intrigue ? « Oui, je trouve ça intriguant », lui répondis-je tout en relisant sa carte, « l'homme qui marche partout. »« Écoutez, nous marchons ensemble jusqu'au bout du sentier et je vous parle de ma passion, d'accord ?»« D'accord, je n'avais rien de spécial à faire et il m'était sympathique ce Francesco. »« Bravo, allons-y !» Il semblait tout heureux d'avoir trouvé un autre être humain à rallier à sa cause. « Je dois vous dire au départ que la marche a toujours fait partie de ma vie. Je suis née dans un petit village au cœur des Alpes italiennes. En ces temps-là, on marchait pour aller à l'école, voir les amis, jouer en forêt, enfin, pour tous nos déplacements. Quand nous sommes déménagés à Gênes, j'ai conservé l'habitude de marcher. J'allais au travail à pied, je marchais pour faire les courses, les promenades avec les enfants, toujours je marchais. Au fil des ans, j'ai constaté que les gens autour de moi prenaient du poids, étaient plus souvent malades, souriaient moins et devenaient plus irritables. Pour ma part, je me sentais bien. Je n'avais pas de graves problèmes de santé et je vivais heureux malgré les aléas de la vie. Je pressentais la marche comme une recette accessible à tous pour atteindre et maintenir une belle qualité de vie. Surtout, je sentais monter en moi le goût d'en parler. Le déclic s'est produit le jour de mes 60 ans. Je m'en souviens comme d'hier. J'avais dit à Angela, mon épouse, que pour mon anniversaire, je voulais revoir mon village natal et faire avec elle une randonnée dans les environs. Nous avons passé la journée dans le royaume de mon enfance. Je ne sais si c'est l'effet de tous ces merveilleux souvenirs ou la beauté du paysage, toujours est-il, qu'au belvédère qui surplombe cette magnifique vallée de verdure et de routes sinueuses, je me suis tournée vers Angela et lui ai dit « Angela, je veux consacrer le reste de ma vie à inciter les gens à marcher. » Depuis, je m'amuse à vanter les mérites de la marche à tous ceux que je croise sur mon chemin, comme vous en ce moment. Il était quand même beau à voir Francesco, en racontant son histoire. Je tombais peu à peu sous le charme. Mon message est simple, poursuit-il. La marche est un moyen extraordinaire de goûter la vie, de se détendre, de garder la forme, d'aller au fond des choses, au fond de soi. Alors pourquoi ne pas marcher chaque fois que nous en avons l'occasion ? Notre qualité de vie en dépend et dans une certaine mesure, l'avenir de la planète. Et vous pensez qu'on vous écoutera, qu'on vous imitera ? « J'espère !» dit-il avec ce sourire empreint d'humilité et d'humanisme qui reste gravé dans ma mémoire. « Et puis, quoi de mieux à faire au cours des années qu'il me reste que d'encourager les gens à marcher en s'inspirant de mon cercle de la marche ?»« Votre quoi ?»« Mon cercle de la marche !» répéta-t-il. C'est une représentation visuelle des bienfaits de la marche pratiquée régulièrement telle que je les conçois. D'ailleurs, vous serez content d'apprendre que je me suis inspiré du cercle de la vie des Premières Nations de chez vous. Le cercle de la vie est pour certains peuples autochtones un symbole regroupant les éléments essentiels à la vie. De la même façon, mon cercle de la marche réunit les bienfaits de la marche qui, ensemble, mènent au bien-être. Regardez au verso de ma carte de visite. Il y est. Je retourne sa carte et j'y vois de fait l'illustration du cercle de la marche. Comme vous pouvez le constater, mon cercle de la marche renferme 7 pointes qui convergent vers le moyeu comme les rayons d'une roue. Le moyeu représente cet idéal énoncé dans l'Antiquité par le poète romain Juvénal, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Écoutez, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous explique brièvement chacun des bienfaits et qui sait, peut-être aurons-nous un jour l'occasion de poursuivre notre entretien. Je veux bien, lui dis-je en fixant l'image du cercle de la marche. Et c'est ainsi que je fis mes premiers pas vers une nouvelle façon de vivre. L'activité physique par excellence. Avant d'entreprendre mon explication, j'aimerais préciser que les bienfaits de la marche ne se manifestent pas toujours selon la séquence dans laquelle je les situe sur mon cercle. Par contre, j'ai remarqué qu'ils se succèdent progressivement, allant normalement des améliorations de la santé physique jusqu'à un éveil de la conscience. Alors, on commence par le bienfait relié à la santé ? En effet, au fait, quel est votre nom ? Denis. Enchanté, Denis. Moi, c'est Francesco. Ravi de vous connaître. Un peu se tutoyer ? Demanda-t-il. Bien sûr. En lui serrant la main, j'ai senti une grande énergie passer à la mienne et dans ses yeux, cette étincelle de vie qui vient vous chercher pour vous amener loin, très loin. Il y a longtemps qu'on le sait, Denis. La marche est l'activité physique la plus naturelle et la plus complète qui soit. Plus nous marchons, mieux s'emporte chaque partie de notre corps, du gros orteil à chacune des cellules de notre cerveau. La marche aide à réduire la pression artérielle, maintenir un poids optimal, conserver une souplesse de jeunesse, régulariser le métabolisme tout entier. Enfin, je pourrais en parler longtemps, mais la documentation abonde à ce sujet. Malgré toutes nos connaissances, poursuit-il, j'ai l'impression que nous sommes devenus une société assise, si je puis dire. Assis en voiture, au travail, au cinéma, devant la télé, au match de foot, au concert, devant l'ordinateur et que sais-je encore. Paradoxalement, ou peut-être à cause de notre mode de vie sédentaire, nous avons fait de la santé une obsession avec une pléiade de suppléments alimentaires, de cours de conditionnement physique, de techniques empruntées d'un peu partout et de cures de toutes sortes. Sans trop simplifier, il me semble que nous n'avons mis qu'à bien s'alimenter, ce qui n'est pas toujours facile de nos jours, de marcher le plus souvent possible et d'être présent à la vie. À toutes les fois que j'ai à me déplacer, je pense d'abord à y aller à pied et je m'organise en conséquence. Ainsi, il est possible d'intégrer la marche à notre quotidien et d'en faire notre moyen de transport privilégié. De toute évidence, ça te va très bien, lui dis-je. Merci, Denis. Il est vrai que j'ai pratiqué quelques sports à différentes époques, mais il reste que la marche a toujours été au cœur de mon quotidien. Je te le disais tout à l'heure, intuitivement, je suis convaincu qu'elle est la source de mon bien-être à tout point de vue. Un laboratoire à idées. À un tournant du sentier, nous abordons la deuxième pointe du cercle. Alors Francesco, selon ton cercle, le deuxième bienfait en allant vers la droite, c'est le mental ? Oui Denis, et c'est fascinant. Souvent au début d'une marche, tout se bouscule dans ma tête. Puis, au fil des pas, ma respiration ralentit. Le calme s'installe et le ménage se fait dans mes pensées. Je prends le temps de regarder autour, d'observer, de respirer. Parfois, je remarque des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Ici, on dit « s'aérer l'esprit », dis-je. Précisément, quand le vide prend la place de trop plein, la magie opère, la lumière se fait. T'est-il déjà arrivé de réfléchir sans cesse à un problème, à la maison ou à ton bureau, sans que la solution te vienne ? Oui, souvent, et c'est très frustrant. J'ai beau l'attaquer dans tous les sens, je n'y arrive pas. Ça ne fait qu'empirer la situation. Bien sûr ! Et pourtant, la réponse est là, quelque part dans ton cerveau. En marchant, tu t'éloignes de ton problème. Tu penses à autre chose et hop, la solution surgit comme de nulle part. Tu n'en as jamais fait l'expérience. Dans mon cas, c'est surtout quand je suis à bout de force de réfléchir et prêt à abandonner. Éventuellement, une piste de réponse se pointe et je persiste jusqu'à la fin. Je trouve ça quand même pénible comme démarche. Grâce à la marche, il est possible d'éviter toute cette frustration. Certaines personnes y arrivent par d'autres moyens, la méditation par exemple, que je pratique aussi. Mais je préfère tout de même la marche pour tous les autres bienfaits qu'elle m'apporte. En prime, la marche transforme le cerveau en une fabuleuse fabrique à idées. Régulièrement, je marche, je ne pense à rien, et puis soudain, un projet, une aventure, un rêve surgissent tout bonnement. C'est d'ailleurs en marchant que m'est venu le concept du cercle de la marche. Je voulais promouvoir la marche et j'avais pensé à quelques concepts pour en regrouper les bienfaits, mais je ne trouvais pas la formule pour bien transmettre ce que j'avais en tête. Un jour, j'ai fait la rencontre d'un Amérindien de la réserve de Kanawake, tout près, et écouté son récit du cercle de la vie. Le lendemain, lors d'une randonnée en forêt, l'image de mon cercle m'est apparue. Je peux vraiment dire que mes meilleures idées me sont venues en marchant. Une fabrique à idées, très intéressant. Ce qui nous amène à la dimension sociale, je crois. Aller vers les autres. Oui, ce bienfait, je le décris comme la joie de vivre des moments intimes et privilégiés avec la famille et les amis. En marchant, je prends le temps de partager mes joies et mes chagrins, aussi bien que mes grands rêves et les petites choses de la vie. C'est l'occasion de parler de tout et de rien, de réfléchir, de toucher, de rire aux éclats ou encore de ne rien dire. Parfois, on dit tout quand on ne dit rien. La présence suffit. En fin de compte, la marche nous rapproche à la fois des autres et de nous-mêmes. Je lisais récemment que plusieurs entreprises favorisent la marche pour les réunions d'affaires, dis-je. Il semble que cela stimule davantage les échanges, l'esprit de groupe et la créativité. Un peu ce que tu évoquais tout à l'heure en parlant de la fabrique à idées. Tout à fait, acquiesça-t-il. Les gens se sentent plus à l'aise, le cerveau est mieux oxygéné et les sens plus éveillés. Ça ne peut que mener à de bons résultats. Et puis, la marche, ça nourrit la vie de quartier, d'ajouter Francesco. Quand je vais me balader ou faire des courses, par exemple, il m'arrive souvent de m'arrêter en cours de route pour bavarder avec mes voisins et prendre des nouvelles. Au bout du compte, la marche, c'est aller vers les autres. Un sourire à un inconnu croisé dans la rue peut faire le plus grand bien, autant à l'autre qu'à soi. Sans rien dire, l'espace d'un instant, on se sent plus près. Si on le croise de nouveau, qui sait, on se mettra à lui parler, à en faire une connaissance, puis un ami. En vacances, c'est pareil. Angela et moi allons à la montagne ou dans des endroits où nous pouvons marcher et rencontrer des gens. Ça ne t'est pas arrivé d'avoir une conversation avec des étrangers et de constater que tu as vécu des moments inoubliables, que vous vous promettez de vous écrire et un jour de vous rendre visite ? Oui, tout à fait, surtout en vacances ou en voyage d'affaires. Et j'avoue que je suis bien content quand c'est l'autre qui amorce la conversation. Effectivement, moins on parle, plus ça nous gêne de faire le premier pas. Et on passe à côté de ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, lui fis-je remarquer en même temps que les canards au bord de l'eau. Eh oui, et c'est d'ailleurs le quatrième bienfait. Tu commences à piger, Denis. Je suis la nature. Dis-moi, quand tu regardes un arbre, que vois-tu?
Bien, je vois un tronc, des branches, des feuilles.
Pour moi, c'est ça et beaucoup plus. Un arbre, c'est toute la vie qui bat. J'imagine la sève qui monte le long du tronc vers les branches et les feuilles. Les insectes et les oiseaux qui y vivent. Le soleil et la pluie sans lesquels l'arbre ne pourrait vivre. Je vois la semence d'où proviennent l'arbre et les fruits qu'il produit. Et dans la terre, les racines qui le nourrissent et en assurent la vitalité. Quand tu marches en forêt, tu te rends compte de la beauté, de la magie de la nature. Tu comprends que tu en fais partie, que tu es la nature et que tu dois faire tout ce que tu peux pour la protéger. Car si elle disparaît, c'est toi qui disparaîtras. Elle ne pourra plus te nourrir, étancher ta soif, te guérir et t'inspirer. Je crains que ce ne soit ce qui nous arrive, lui dis-je. On entend parler que de réchauffement planétaire, de perte accélérée de la biodiversité, de désertification et de changement climatique qui risquent de provoquer d'innombrables catastrophes météorologiques et humanitaires. C'est effectivement très inquiétant, Denis. Je me répète souvent que la planète peut très bien se passer de nous. C'est nous qui risquons de disparaître à plus ou moins brève échéance. Je crois que nous devons très rapidement modifier nos comportements pour éviter le pire. Tiens, regarde là-bas, sur l'île Sainte-Hélène. Tu vois la partie supérieure du dôme géodésique qui abritait le pavillon des États-Unis à votre Expo 67 ? Oui, cette structure me fascine. Tu sais peut-être qu'il est l'œuvre de Buckminster Fuller, ce futuriste américain qui comparait la Terre à un vaisseau spatial voyageant dans l'espace. Et tout comme un vaisseau spatial, notre planète renferme des ressources limitées et des conditions délicates favorisant la vie. Celle-ci, épuisée ou détruite, on ne peut se réapprovisionner ailleurs. Et puisque nous sommes captifs de notre vaisseau spatial, nous ne pouvons fuir. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. J'ajouterai une pensée d'un contemporain de Fuller, Marshall McLuhan, un Canadien comme toi. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit l'expression très appropriée « village global ». En conversation un jour avec Fuller, il suggéra qu'il n'y a pas de passagers à bord de notre vaisseau spatial Terre. Nous faisons tous partie de l'équipage. Je trouve ça génial. Nous avons tous un rôle à jouer pour maintenir notre vaisseau en bon état de fonctionnement. C'est l'effet cumulatif de nos contributions individuelles qui pourra faire changer les mentalités et entraîner les transformations nécessaires pour assurer notre survie. Et la marche dans tout ça, lui demandai-je. Ah, il est temps de passer au cinquième bienfait, dit-il en souriant. Pour changer le monde. Celui-là, je l'appelle l'essentiel. Il y a plusieurs années, au cours de mes promenades, il me semblait que je possédais tout ce dont j'avais besoin dans la vie. Une bonne paire de souliers et de vêtements confortables selon la saison. Et quand je rentrais à la maison, je me surprenais à regarder autour de moi ou à tenir quelque chose dans la main et à me poser la question « Francesco, cet objet est-il nécessaire à ton bonheur et à celui de ta femme, de la famille ?» Ou bien, je demandais à Angela, « Depuis quand on ne s'est pas servi de ceci ou de cela ? On le garde ou on le donne ?» Nous avons graduellement éliminé le superflu de notre vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous contentons de peu et ne manquons de rien. C'est ce que nous appelons ici la simplicité volontaire, lui dis-je. Tout à fait, Denis. Tu sais, simplicité rime avec félicité. Une fois arrivés à ce niveau de simplicité volontaire, comme tu dis, nous nous sentions plus libres. Nous n'avions plus le goût de nous attacher aux choses et aux activités qui encombrent la maison et la tête. Tu es quand même chanceux d'avoir connu une vie plus simple dans ta jeunesse, m'empressai-je d'ajouter. Cela a certainement rendu plus facile la transition à ton nouveau mode de vie axé sur l'essentiel. C'est vrai, nous n'avions pas autant de choix et nous étions moins sollicités. Les nouvelles inventions nous facilitaient vraiment la vie de tous les jours, à la maison comme au travail. Et nous avions le temps d'en jouir, de les apprécier. J'allais dire de les apprivoiser. Aujourd'hui, nous sommes pris dans l'engrenage de la surconsommation, constamment bombardés de publicités qui nous incitent à acheter de plus en plus et des choses dont nous n'avons absolument pas besoin. Et cette consommation effrénée entraîne l'épuisement des ressources naturelles de la planète dont je te parlais tout à l'heure. À mon avis, poursuit-il, le grand défi du 21e siècle sera de consommer moins, beaucoup moins, et de le faire de façon durable. Je ne vois pas d'autre issue. Et la marche peut nous aider dans cette démarche. Tout au long de ma vie, elle m'a permis de prendre du recul et de réfléchir avant d'agir. Il y a quelques années, ma petite fille et son mari se sont mis à marcher régulièrement avec les enfants et ont graduellement découvert tous ces bienfaits de la marche en famille. Ils me disent souvent être tellement plus heureux aujourd'hui. Ils ont l'impression d'avoir repris le contrôle de leur vie. Cela a dû te faire plaisir. Énormément, d'autant plus que certains de leurs amis ont fait de même. Pour changer le monde? Tout à fait. Une personne à la fois. Marcher, c'est méditer. Là, Denis, nous en venons à la dimension spirituelle. Quand tu penses à la méditation et à la marche, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Compostelle. C'est ce que me répondent la plupart des gens, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Je n'ai pas encore entrepris Compostelle, mais plusieurs de mes amis et connaissances l'ont complété. Ils sont unanimes à dire que ce voyage intérieur a changé leur façon de voir les choses, surtout la deuxième ou la troisième fois. Et ça concorde avec tous les reportages et les livres que j'ai vus ou lus à ce sujet. Pour ma part, je me suis contentée de petites fugues d'un jour, surtout les fins de semaine. Encore aujourd'hui, souvent le dimanche, je me lève tôt et je prends la route, sans destination précise et sans horaire. Sauf peut-être l'heure du retour à la maison pour le dîner. Ça me permet de lâcher prise complètement. Je me laisse guider par mes pas, le paysage, la température. Les émotions viennent et repartent aussitôt. Les souvenirs aussi, et les projets. Rien ne reste très longtemps. Je me libère d'un poids. Je deviens tout léger. Je médite sur le sens de la vie, ce que je vais en faire, ce que je dois en faire. Ces mini pèlerinages d'un jour sont des cadeaux que je me fais à moi-même, comme des pages d'un récit du chemin de Compostelle. Et parfois, le résultat est surprenant. Comment ça? Une fois, en forêt, il m'est venu cette notion que rien n'existe en dehors de la nature. Que veux-tu dire? Quand on y pense bien, les vêtements que tu portes, ta maison, l'argent, les institutions, les lois, tous les systèmes qui régissent notre monde, nous avons tout créé. On ne retrouve rien de tout cela dans la nature. Alors la question se pose, si nous avons tout créé, ne pouvons-nous pas réinventer notre monde autrement? Tout reprendre à zéro? Non, pas à zéro. Au fil des siècles, nous avons réalisé de très grandes choses dans toutes les sphères de la société. Mais nous avons aussi produit les pires horreurs, parfois avec ignorance, mais aussi en toute connaissance de cause. Le temps est venu de construire un monde où l'humain trouve sa place. Je ne suis pas le premier à le dire, mais le temps presse comme jamais. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, dans les choses qu'il t'est donné de changer, ne peux-tu pas réinventer ta vie et celle des autres? Ça peut mener loin tout ça. Au septième bienfait peut-être? une immense famille.
Ah, le septième, le plus extraordinaire de tous! Tu ne le vois jamais venir. Il t'apparaît au coin de la rue ou sur une route de campagne. Le plus souvent, quand ton corps est fatigué et que ta tête est vide, complètement vide, aucune pensée, aucune émotion, rien. Tout à coup, un grand bien-être t'envahit. Tu comprends viscéralement que tout ce qui est vrai, tout ce qui compte vraiment, c'est l'amour, la compassion. Et la réalité, que nous sommes tous pareils, que nous habitons tous la même planète, comme une immense famille. Alors ta vie bascule. Ça ne peut faire autrement. C'est très beau ce que tu dis. Oh, ce n'est que mon expérience à moi, Denis. La tienne ou celle d'un autre peut être différente. L'important, c'est de prendre l'habitude de marcher tous les jours, toujours et partout. Plus tu intègres la marche à ton quotidien, plus elle te fait découvrir ses trésors. Chacun des bienfaits de mon cercle de la marche est complet en soi et mérite à lui seul le temps que tu lui consacres. Et plus tu marches, plus les bienfaits s'accroissent, se renforcent les uns les autres. Ta vie s'en trouve transformée pour le mieux à tous les points de vue. Et plus tu toucheras de personnes, plus elles te suivront dans ta démarche, plus tu auras fait ta part pour changer ce monde. Voilà, tu connais tout de mon cercle de la marche.
Je vais certainement y réfléchir, lui dis-je.
Ne réfléchis pas trop, Denis, marche plutôt. Mieux encore, réfléchis en marchant.
Oh, il se fait tard, ajouta-t-il brusquement. Je devrais rentrer pour le dîner de famille, on se quitte ici. Écris-moi en Italie et tiens-moi au courant de tes impressions, promis.
Promis.
Alors, arrivederci, Denis. Encore une fois, cette poignée de main énergisante, cette étincelle dans les yeux, et voilà Francesco qui repart, qui s'éloigne lentement, en regardant autour de lui, profitant sans doute de chaque instant. Quel personnage ! Je l'ai suivi des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les arbres au tournant du sentier. Je tenais toujours dans ma main gauche sa carte de visite, et en regardant son cercle de la marche, j'ai repris un à un chacun de ces sept bienfaits de la marche au quotidien, tentant, tant bien que mal, de me souvenir de tout ce qu'il m'avait raconté. C'est à cet instant que j'ai pris la décision d'adopter sa formule du bonheur, de la faire mienne, et de me mettre à marcher tous les jours, très curieux de savoir où cela me mènerait. L'ultime liberté. Au cours des semaines qui suivirent, je me suis mis à la marche plus sérieusement, tout en me remémorant ce petit bout de chemin parcouru avec Francesco et cette belle leçon de vie. À Noël, je lui ai envoyé un mot le remerciant de m'avoir initié à son univers et du bien-être qui lentement s'installait en moi à force de marcher de plus en plus souvent, presque tous les jours. Tout à l'heure, en ce début de printemps, j'ai reçu de lui une lettre. Un peu fébrile, je décachette l'enveloppe et lis. « Cher Denis, depuis mon séjour dans ton merveilleux pays, je pense souvent à notre balade au bord de l'eau et à mes beaux canards. Je suis heureux que tu aies pris l'habitude de marcher tous les jours. Bientôt, tu ne pourras plus t'en passer et ta vie prendra une toute autre direction. Tu ne seras plus la même personne, ou plutôt... tu seras la personne que tu es vraiment. Peut-être deviendras-tu aussi l'homme qui marche partout, comme ton ami Francesco et ses copains qui partagent la même passion et qui, eux aussi, une personne à la fois, changent le monde. Pour toi qui aimes tant réfléchir, je t'offre une autre pensée. Dis-toi que la marche incarne peut-être la dernière, l'ultime liberté dont nous pouvons jouir de nos jours. La liberté de se déplacer, d'imaginer, de vivre pleinement sans limite. Denis, viens nous voir, on ira se balader tous ensemble. Ce n'est pas si loin l'Italie. A presto, Francesco. Alors que je remets lentement la lettre dans l'enveloppe, j'aperçois à l'intérieur un petit carton. Ce sacré Francesco, Il m'a fait une carte de visite semblable à la sienne. Denis, l'homme qui marche partout. J'ai eu comme un petit serment au cœur. Il me manquait. Oui, un jour, en Italie, tous ensemble.
Sophie, c'est absolument merveilleux. Merci beaucoup d'avoir fait la lecture de mon petit récit. En fait, ce que j'ai constaté, avec l'accent que vous avez, on est absorbé, on est happé par ce récit. On y croit vraiment, il prend vie.
Mais oui, c'est-à-dire que c'est ça, c'est mon côté aussi un peu comédienne, et en même temps, c'est porté par vos mots, c'est ça qui est magnifique. C'est que... tout d'un coup, oui, le personnage prend corps. Et ce que je trouve absolument magnifique, c'est qu'en en utilisant cet accent marseillais, tout d'un coup, les mots se mettent à chanter, les mots se mettent à danser, les mots se mettent à marcher. Mm-hmm. Ça vit, ça devient vivant.
Et vous maîtrisez cet accent, pourtant vous n'êtes pas du sud de la France, vous êtes de Normandie.
Oui, je suis née en Normandie, mais je connais très bien le sud de la France, que ma grand-mère habitait Nice. Et j'ai pendant des années et des années et des années parcouru l'arrière-pays niçois, la Provence. En plus, je suis une amoureuse de Marcel Pagnol. J'ai des amis aussi qui habitaient un petit peu de l'autre côté, du côté plutôt des Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais j'aime cet accent et les Marseillais ne m'en voudront pas de l'avoir utilisé.
Assez bon escient.
Assez bon escient, absolument.
Mais il faut dire que avec votre mère, vous visitiez beaucoup la Provence.
Avec ma grand-mère, c'était ma grand-mère. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis permis, j'aimerais vous partager quelque chose, parce que en relisant votre récit, parce que je savais que j'allais l'interpréter, si je puis dire, aujourd'hui pour vos auditeurs, ce que j'ai trouvé absolument magnifique, c'est combien votre récit m'a fait vagabonder, m'a fait cheminer, m'a fait réfléchir, même si Francesco dit marche plutôt que de réfléchir, ou en tout cas réfléchir en marchant. Tout d'un coup, j'ai réalisé combien dans ce petit livre, il y avait quelque chose de sacré. Et Francesco, à qui j'ai donné vie de cette manière-là, a quelque chose de terriblement terrien, mais en même temps, il y a quelque chose de terriblement sacré, d'ailleurs, et quand il parle de Compostelle, de ces petits pèlerinages comme ça. Et c'est vrai que je me suis posé la question de la notion de transcendance, de sacré. Je trouve que sans être jamais dit dans votre livre, c'est présent. Je trouve qu'il y a cette notion de sacré. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, mais au fond, je me suis permis d'avoir cette réflexion en me disant, et si la marche était une prière ? Et si chacun de mes pas résonnait comme une parole sacrée qui susurrait à mon cœur et à mon corps, fais seulement un pas et tu seras guéri. Donc vous voyez que ces mots, vos mots, amènent à une réflexion que je trouve extrêmement profonde et enivrante et à la fois terriblement vivante. Et puis j'aimerais, suite aussi à ce récit, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Oh. Puisqu'on parlait de ma grand-mère qui m'a fait découvrir la Provence. J'ai retrouvé une lettre qu'elle m'a écrite et c'est une manière de lui rendre hommage, elle qui allait fêter ses 100 ans et nous a quittés l'année dernière.
100 ans.
Oui, absolument.
Et elle marchait beaucoup.
Et elle marchait énormément. C'est une femme qui ne conduisait pas, parce qu'elle était d'une génération où son mari n'avait pas voulu qu'elle passe son permis de conduire. Et c'est une femme qui marchait. Et elle avait une très mauvaise vue. Et ce qui était extraordinaire, ce que j'adorais, c'est qu'elle disait, tu vois, mon petit, ce qui est formidable, c'est comme je vois très mal. Quand je vois un paysage, si tout d'un coup c'est moche, je ne vois que le beau.
Oh!
C'était incroyable. Et un jour, elle m'avait raconté, elle était allée en Turquie avec une amie qui l'avait emmenée, elle marchait. Et un jour, elle s'extasie devant un paysage. Et son amie lui dit, mais qu'est-ce que vous faites, Alice? Elle lui dit, mais regardez comme c'est magnifique. Et elle lui dit, vous êtes en train de contempler une décharge publique. Et en fait, elle n'avait pas vu. Ce qu'elle avait vu, c'était des montagnes. Et elle avait tout d'un coup cet autre regard porté sur la vie et sur les choses.
C'était tout à fait abstrait. Hein.
Totalement ça, abstrait. Oui. Et donc, elle marchait énormément. Et j'aimerais donc vous partager cette lettre que j'ai retrouvée. Mon petit, je viens de rentrer après une longue balade qui m'a entraînée sur ce chemin qu'ensemble nous avons parcouru si souvent. Et aujourd'hui, bien que je l'ai arpenté en solitaire, je n'étais pas seule. Mes souvenirs accompagnaient chacun de mes pas vers ce pèlerinage qu'à chacune de tes visites, nous entreprenons vers cette petite chapelle Saint-Pierre que ton amour pour Cocteau m'a fait un jour découvrir. Après m'y être recueillie, je suis allée me poser chez notre ami Georges à la terrasse de son petit café où, rituellement, nous nous abandonnons à nos échanges à bâtons rompus sur le sens de la vie, entre deux verres de limonade trop sucrée mais bien fraîche. Et dans le silence de mon cœur, j'ai revu en pensée tous ces lieux, ces villages qui, bien que touristiques, ont pour moi la couleur de notre complicité partagée. Aise village, perché sur ses hauteurs, où nous nous encourageons de nos fous rires pour mieux l'atteindre et ensuite redévaler avec bonheur ce chemin de Nietzsche, nous offrant son incroyable dénivelé et sa vue imprenable sur la Grande Bleue. Te souviens-tu de cet aquarelliste que nous y avions rencontré et qui, depuis 20 ans, peignait inlassablement la même vue pour en percer le mystère ? Saint-Paul-de-Vence, où nous avons assisté à une partie de pétanque que n'auraient pas renié les plus beaux personnages de Pagnol. Roquebrune-Cap-Martin, que tu as fini par arpenter pieds nus à cause de ces ampoules que t'avaient provoquées ces petites ballerines blanches que tu voulais étrenner, mais bien trop neuves pour cette longue marche que nous avions prévue entre Menton et Monaco. Tourette-sur-Loup, Mougins, Gourdon ou encore Saint-Martin-de-Vésubie, tous ces noms me parlent de toi, de nos balades, de nos mots et de nos silences partagés, de ces textes que tu me lisais ou me déclamais avec ton cœur de poète, comme dirait ton père. Et bien sûr, dans nos marches longues, cette quête que tu avais, trouver un petit mas que tu m'offrirais un jour. Va bien, ma rêveuse, continue d'arpenter les routes de ta vie passionnément, cherche et tu trouveras. Je finirai cette lettre par ces mots de Peggy, ce grand poète à la fois inclassable et que tu m'as lu si souvent. Je marche depuis toujours, je marche comme on pense, je marche comme on prie, je marche comme on espère. Mes prières t'accompagnent sur ton chemin avec toute la tendresse de ton Alice.
Oh là là, c'est merveilleux, sublime même. Alors, quels sont vos souvenirs de jeunesse de cette belle Provence ?
Eh bien, justement, c'est ça. C'était vraiment ces balades avec ma grand-mère qu'elle évoque et qui est vraiment, qui était une manière, parce que la Provence, et bon, je connais beaucoup l'arrière-pays niçois, mais également la Provence, j'ai le sentiment que c'est un peu comme perpétuellement, ce sont des tableaux. Des tableaux, ce sont des œuvres d'art. Et puis les personnages. J'ai rencontré des gens absolument. Ma grand-mère parlait de Georges, qui était un personnage absolument truculent, extraordinaire, qui avait un accent fabuleux et que justement nous avons rencontré un jour à force de balade et à force de marcher. Et c'était un point de chute. On était parfois fatigués, épuisés. Et il faisait cette limonade absolument incroyable, extraordinaire, qui était tellement trop sucrée mais fraîche. Et il nous racontait des tas d'anecdotes, de gens qui passaient, même parfois il en rajoutait comme les Provençaux, comme les gens du Sud sont capables d'en rajouter. Et ces rencontres, cette femme aussi qui était c'était une sœur, je me souviens, que nous avions croisé aussi justement sur ce chemin de Nietzsche qui existe vraiment, qui a un dénivelé je crois de 400 mètres. Vous avez une vue extraordinaire sur la Méditerranée et on avait en effet croisé cette aquarelliste et cette sœur qui était une femme qui était absolument incroyable, qu'on a croisée à plusieurs reprises et qu'après nous avons rencontré. Elle s'appelait Raymonde. Elle m'avait offert un très beau livre d'ailleurs. Elle m'a fait découvrir, c'était Tistou et les pouces verts. Donc oui, des rencontres comme vous dites dans votre livre, et puis des paysages, et puis je dirais aussi la complicité évidemment avec ma grand-mère. Et ce que je trouve absolument extraordinaire dans ces longues marches où on alternait les échanges, où on parlait, moi j'étais jeune, j'étais enthousiaste, j'étais passionnée, et ma grand-mère plus âgée qui me pondérait, et puis des grands moments de silence où on partageait aussi des questions sur le sens de la vie. Et puis les chapelles. les chapelles qu'on allait voir dans les villages. Ça, c'était une chose, à l'époque, je me souviens, là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, les chapelles étaient encore ouvertes. On pouvait rentrer dans les petites chapelles, on y croisait une vieille femme provençale. Je me souviens d'ailleurs d'une femme provençale qu'on a entendue prier en vieux provençal. Donc, c'était ces moments comme ça, uniques, qui à la fois sentent le thym, sentent la lavande, j'entends le bruit des cigales, le bruit de la mer, et puis dans l'arrière-pays aussi, cette chaleur, plus loin, plus profondément aussi, la rocaille, parfois la dureté aussi de certains paysages. Donc voilà, ça sent bon la province.
Mais justement, l'accent, vous l'avez travaillé beaucoup comme comédienne, comme actrice.
Oui,
mais il y avait un amour de la langue.
Ah oui, absolument,
là,
un amour de la langue. Et puis cette truculence, cette façon de dire les choses avec cette rondeur. Je trouve les mots qui chantent, ça chante.
Et voilà, justement.
Cette rondeur. Et en plus, je trouve que c'est un accent, même quand les gens du Sud sont en colère, moi ça me faisait rire. Parce que quand il s'emportait avec cet accent, quand tout d'un coup, avec cette truculence comme ça, que j'étais pas content de quelque chose, et ça, voilà, un peu à la Rému qui était pour les plus anciens connaîtront, mais qui tout d'un coup fait que, comme si tout d'un coup ça rendait la vie et plus légère.
On retrouve tout ça dans les films de Pagnol.
Absolument.
Qui sont merveilleux, là.
Absolument. Ouais. Ah oui, moi je suis une inconditionnelle. La partie de carte, évidemment, tu me fends le cœur. Et puis cette tendresse aussi. Il y a, je trouve, dans le Sud et dans ces paysages et dans ces personnages, une infinie tendresse et en même temps une pudeur. Il y a une très très grande pudeur aussi.
Et il y a une simplicité, il y a un gros bon sens qu'on dirait ici.
Absolument.
Hein, c'est ça?
Absolument. Ouais. Un gros bon sens. C'est pour ça que je trouve que tout d'un coup, donner cette couleur à Francesco, il a ce gros bon sens quand il parle justement de cette simplicité, qu'on dit simplicité volontaire ici, c'est-à-dire de tout ce dont on s'encombre de façon inutile. Et que c'est vrai que... et puis la marche nous rend égaux, puisque c'est quelque chose que nous pouvons tous faire tout d'un coup. Et les vertus, évidemment, qu'elle a et qu'elle nous permet de développer.
Parce que Francesco, il est de Gênes, mais en fait, il habite Gênes maintenant, il est des Alpes italiennes, mais c'est un pays qui n'est pas tellement loin de la province.
C'est juste à côté, et d'ailleurs, avec ma grand-mère, en fait, nous passions régulièrement la frontière.
Ah oui.
On passait, il y avait Vintimille,
oui.
Et on allait à San Remo, je me souviens, on allait manger, on allait boire des cafés Campana. On est allé à San Remo, je me souviens, on avait fait une longue marche à San Remo. Ma grand-mère, je me souviens, avait perdu un pull. Toute une histoire, toute une anecdote. On avait essayé de baragouiner en italien pour se faire comprendre. Et oui, absolument. Et Nice, c'est les Alpes de Haute-Provence. Et les Alpes, en fait, ça jouxte. Donc oui, je connais bien aussi, en tout cas, cette partie-là de l'Italie.
Oui, alors on voit bien Francesco aller faire un petit tour en Provence. Là.
C'est clair. C'est clair que Francesco...
Oui.
C'est clair que Francesco, il connaissait bien ce coin-là.
Vous parliez de Cocteau aussi. Vous aviez une fascination pour Cocteau. Ben, vous l'avez toujours.
Oui, ouais. J'ai eu, ça a été, alors ça l'est moins présent, mais j'ai eu un grand, grand amour pour Cocteau. C'était passé par Jean Marais, d'ailleurs, au départ.
Oui.
Et que j'ai même rencontré, connu, avec qui j'ai même eu une correspondance. Et j'ai découvert l'œuvre de Cocteau très jeune, qui est une œuvre assez compliquée, complexe. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était aussi sa peinture. Et j'ai découvert donc cette petite chapelle en marchant, justement, en allant dans ce petit village magnifique.
À quel endroit, comment il s'appelle?
C'est Villefranche-sur-Mer, qui est vraiment, c'est un village qui est rose et qui donne sur la Méditerranée, qui est absolument magnifique. Et il y a cette petite chapelle qui était une ancienne cabane de pêcheurs et qui est entièrement refaite. Et d'ailleurs, je crois même qu'elle est maintenant même au patrimoine des monuments historiques.
Ah oui.
Et c'est très très beau. Il rend hommage à Saint-Pierre aux pêcheurs et il l'a décoré. Alors évidemment, il faut aimer Cocteau, mais j'aime ce trait, j'aime les traits de Cocteau parce qu'il avait un trait très simple, très beau, des visages, et puis il est très très reconnaissable. Et j'étais en amour, tombée en amour avec son théâtre, avec ses livres, moi j'ai adoré son film Le Bel et la Bête. Et ce que j'aimais surtout de cet homme, on le lui a beaucoup reproché d'ailleurs, c'est qu'on disait que c'était un touche-à-tout. C'était un touche-à-tout que je trouve de génie. Il était peintre, il était auteur, il était homme de théâtre, il était décorateur, il était couturier, il était incroyable. Et j'aimais ça, c'était l'homme qui marche partout, l'homme qui touche à tout. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fait découvrir à ma grand-mère Cocteau, et tous les ans, je l'enquiquinais, et on allait faire ce pèlerinage ensemble, à pied, dans cette petite chapelle.
Ce que j'ai trouvé très intéressant pendant votre lecture, c'est que normalement, vous, quand vous parlez dans la langue de tous les jours, le français bien sûr, vos mains ne bougent pas tellement. Et puis lorsque vous vous êtes mise à parler comme Francesco de la Provence, les mains et les bras bougeaient toujours. C'est un peu comme en italien, là.
Oui.
Il y a une habitude qu'on
absolument
prend,
là. Mais d'ailleurs, c'est assez amusant. Là, c'est du côté plutôt de ma maman. La famille de ma maman est d'origine italienne. J'avais une arrière-grand-mère qui s'appelait Zita Caramelli. Et en fait, donc, dans la famille, on a aussi beaucoup ce côté de parler avec les mains. Et c'est vrai que tout d'un coup, le fait de parler avec cet accent, ça met tout le corps en mouvement, en fait. Oui. Il y a quelque chose qui se met à vibrer, et particulièrement les mains. Et d'ailleurs, les gens du Sud et les Italiens, comme quand vous avez rencontré Francesco, parlez avec ses mains.
Oui, c'est ça, oui. Et on voit toute la vie, tout l'amour de la langue, l'amour de la culture, là, ça transparaît dans votre lecture.
Mais oui, et puis je crois que la balade des mots n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est-à-dire que ça nous emmène vraiment en balade, ça nous emmène vraiment en voyage. Et tout d'un coup, c'est vraiment, j'ai ce sentiment avec cet accent, quand tout d'un coup je l'emprunte, tout d'un coup je pars en voyage avec les mots. C'est-à-dire que les mots se mettent vraiment à marcher. Il y a quelque chose qui, même à danser, à chanter. Et il y a quelque chose d'extrêmement gai, d'extrêmement vivant, d'extrêmement invitant.
Oui. On goûte la vie, là.
Oui, on goûte. Mais en fait, un petit peu comme la rencontre dont vous parlez avec Francesco, qui tout d'un coup vous amène à ça, vous amène à tout d'un coup à vous questionner, à dire. Et puis, ça secoue, il y a quelque chose. C'est comme si on était secoué tout d'un coup. C'est parce que c'est fort, parce que c'est tonitruant, parce que ça prend de la place. Et qu'en même temps, je veux dire, derrière, encore une fois, il y a un amour, une tendresse. Quand il dit d'ailleurs qu'il n'y a rien de plus important que l'amour et la compassion. Ce qui, à mon sens, est très vrai.
Sophie, merci beaucoup de nous avoir ramenés avec vous lors de cette nouvelle balade des mots. Et je vous laisse peut-être un mot de la fin au nom de Francesco, au nom de tout ce merveilleux peuple de la Provence.
Eh bien, Denis, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur de m'avoir permis de lire votre petit livre que j'invite tous les auditeurs à se procurer pour s'en délecter.
Merci beaucoup, Sophie. Et à la prochaine balade des mots.
À très bientôt, Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de sa participation Sophie Hartung. Merci également à Jérôme Costigan à la technique. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une citation de Marcel Pagnol. Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.